بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui dans sa clémence nous accepte ce soir de nouveau pour passer un peu de temps dans la masjid pour essayer d'étudier une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec pour objectif d'améliorer notre relation avec Allah Azza wa Jal, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire des kalamun nabi sallallahu alayhi wa sallam, des enseignements de notre prophète alayhi salatu wa sallam. Quand on écoute n'importe quel discours de ce dunya, que vous écoutiez un professeur d'université, vous écoutez un médecin, vous écoutez un politicien, vous écoutez un psychologue, quelles que soient les personnes, les orateurs en guillemets de ce monde, ils vous donneront toujours de bons conseils. Personne ne va vous réunir pour vous parler de quelque chose qui est mauvais. Ça c'est clair. Autrement, les gens n'écouteraient pas. Là, on est d'accord. Mais quels que soient les discours, les courants philosophiques ou politiques ou autres, quelles que soient les tendances, le contenu de discours se limitera au dunya. Sahih wa lala. Le contenu de discours te donnera donc des indications pour mieux vivre dans ce monde, pour réussir, pour gagner plus, pour faire fructifier ton argent, pour avoir plus de diplômes. Il arrête les alliés. Pour que l'homme vive mieux, pour que l'homme soit encore plus épanoui qu'il est en ce moment. S'il est malade, quels sont les conseils pour retrouver la santé, pour garder une santé qui est stable, et ainsi de suite. Certains conseils sont profitables, d'autres à avoir, à relativiser, mais en tout état de cause, dans ce dunya, on n'entendra jamais une personne vous donner des conseils comment préparer votre vie après la mort. Personne. À part le prophète alayhi salatu wassalam, qui à travers les hadiths, les enseignements qui proviennent d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est « وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ». Tout ce qu'il dit, c'est le « وَحْيٌ مِنْ Allah ». Tout ce que le prophète nous a donné comme conseil, enseignement, c'est la révélation de la part d'Allah. Et donc, dans cette optique, notre prophète alayhi salatu wa sallam nous avait mis en garde contre sept choses. Et on avait plus ou moins étudié ces sept points. Il nous restait, il me semble, deux derniers points. Le prophète nous a dit « بَادِرُ بِالْأَعْمَالِ سَبْعَ ». Pressez-vous à accomplir de bonnes actions avant cette situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'une pauvreté qui nous empêche de nous rapprocher d'Allah, ou d'une richesse ouverture de bienfaits de ni'ma qui nous empêche de nous, qui nous éloigne d'Allah du coup, qui nous éloigne d'Allah. Ou une maladie, un problème de santé qui nous empêche de faire de bonnes œuvres. Ou un état, on va dire un âge avancé plutôt, quand on parle de harama, un âge avancé, une vieillesse, ben, qui nous empêche de faire de bonnes œuvres, qui nous limite, on va dire, dans l'accomplissement de bonnes actions. Et ces cinq points-là, on va dire plutôt quatre, on a plus ou moins expliqué, idhnillah. Il nous restait à voir la mort que le prophète alayhi salatu wa sallam avait annoncé, mais ça, il me semble qu'on avait un petit peu expliqué, awid dajjal, l'antéchrist ou la venue du qiyam. Ces trois points-là, il nous restait donc à développer. Concernant la mort, je ne sais plus si on avait commencé ou alors, même si on avait dit, khairan, ça reste un rappel, en rapport également avec ce qu'on a, le hadith qu'on avait lu après la salat au maghrib, concernant la mise en garde du prophète alayhi salatu wa sallam contre le fait que nous sommes trop insouciants. Nos cœurs sont remplis de rafla. Et qu'est-ce qui fait que l'homme devient rafil? Qu'est-ce qui fait que l'homme devient insouciant? C'est quand l'homme se plaît à vivre de ce dunya. Certains savants disent que le grand fléau, c'est le confort. Il ne faut pas demander à Allah la pauvreté. Quoique le prophète, lorsqu'il avait le choix entre avoir un royaume comme celui du prophète Sulaiman alayhi salam ou vivre dans la pauvreté, le prophète alayhi salatu wa salam avait préféré la pauvreté. Parce que c'est dans cette situation où on n'est pas épris des biens de ce monde, c'est là qu'on peut se rapprocher d'Allah, c'est là qu'on pense à Allah Azza wa Jal. Et donc, effectivement, nous vivons dans une insouciance permanente parce que nos cœurs sont attachés aux biens de ce monde. Parce que nous avons peut-être goûté un petit peu au nectar, j'allais dire au nectar, c'est un lapsus, nous avons goûté un petit peu au confort. C'est-à-dire comme une abeille qui a goûté au nectar d'une fleur qui commence et qui va continuer à butiner. Quand elle a goûté un petit peu les plaisirs de ce monde, on voudra encore plus. Et c'est là, la sunna d'Allah, l'homme est attaché au bien de ce monde. Et donc, les cœurs ont besoin d'être réveillés. Et la seule chose qui peut réveiller les cœurs, c'est la pensée de la mort. Quand le prophète dit « La ta'alamuna ma a'lamu » si vous saviez ce que moi je sais, c'est-à-dire ce qu'Allah lui a montré certainement lors du voyage nocturne, ce qu'Allah lui a enseigné comme description du akhira, ce qu'il a vu de l'enfer, ce qu'il a vu dans le paradis, c'est-à-dire toutes les réalités de l'au-delà, si on savait, ben on passerait moins de temps à rire et plus de temps à pleurer. Ça veut dire que on se détacherait de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous lie, tout ce qui nous lie et ligote au dunya. Parce que quand on commence des fois à rentrer dans le dunya, c'est les mains liées et les pieds liés, mais également le cœur attaché. Peu de gens goûtent au dunya et peuvent faire la part des choses, et nous devons être capables de faire la part des choses, avoir ce juste milieu entre ce suffit de ce qu'Allah nous a accordé, sans oublier qui nous l'a accordé. Sans oublier que c'est Allah qui ouvre les portes du rizq. Une personne peut passer une période de sa vie, comme on dit dans un langage moderne et un peu irrespectueux, être dans la galère. Une personne peut être dans la galère, une situation où un mois, deux mois, trois mois, il n'a pas de travail, pas de revenus, difficulté. Et, mashallah, il obtient un CDD. Ou même, au mieux, le CDI. Ah, ça, c'est le rêve suprême. Il obtient, bi'idhnillahi wa fadlihi wa karamihi, un travail. Maintenant, à lui de voir, quand je n'avais pas de travail, j'étais là au premier rang 5 fois par jour à implorer Allah son aide, sa nusra, à me plaindre à lui, waqt akhir thuluth al-layl, dans les tiers de la nuit, lui rappeler ma faiblesse et comment j'ai besoin de lui. Maintenant, Allah m'a accordé futuhat, l'ouverture, l'acceptation de mes doigts. Maintenant, à moi de voir mes prières. Est-ce que je suis toujours assidu au ibada ou non? Et si je vois que ce dunya m'a éloigné du ta'a, de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, rester dans la masjid, là wallah. Tous les sahaba avaient un emploi, entre guillemets. Certains étaient agriculteurs, travaillaient la terre. Et Allah seul sait, Dieu seul sait comment est-ce que travaille la terre. C'est beaucoup plus dur que tout ce que nous faisons. Travailler la terre, c'est du matin jusqu'au soir avec chercher de l'eau. Il a réalisé, ceux qui l'ont déjà fait, ils savent. Ou alors ils étaient bergers, et ça nécessite beaucoup de temps également. Ou alors ils étaient commerçants ou artisans. Tout le monde avait un travail, un emploi. Et Omar ibn al-Khattab n'aimait pas voir une personne qui ne faisait rien, comme on appelle dans le langage moderne un chômeur. Quand on présentait quelqu'un, c'est une parenthèse, hein, quand on présentait quelqu'un à Omar ibn al-Khattab, à l'époque où il était calife, il demandait « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Tes mains, ils font quoi tes mains ?»« Ça sert à quoi ?»« Tu travailles de quelle façon ?»« Comment tu obtiens ton ?» qui complète ton risque. Parce que le risque ne descend pas du ciel. Le risque ne descend. Les Banu Israël, à un moment donné, ils ont eu les ni'amas qui descendaient du ciel. Mais c'est terminé, ça. Et le prophète m'a dit que le meilleur des subsistances, c'est celui que tu vas travailler, tu vas obtenir. Ça, c'est izza. Ça, c'est l'honneur du croyant. Et ça, c'est également son devoir envers sa femme et ses enfants, envers sa famille. Et le temps qu'il passe pour obtenir sa subsistance licite, pour s'acquitter de ses devoirs envers sa famille, s'il le fait lillahi, parce que c'est mon devoir de père, ce sera également pour lui source de récompense. Mais en aucun cas, le talabur rizq ne doit nous éloigner d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire la part des choses. Et comme on a dit, très souvent, le cœur a tendance à s'aveugler. Quand le cœur a goûté au dunya, il ne voit plus, il voit que ce qui brille. Et à un moment donné, le cœur est illuminé dans le mauvais sens, c'est-à-dire il ne voit plus, il voit que de la lumière partout. Il ne distingue plus le bien du mal, il n'a plus de vision. Et pour que le cœur retrouve le juste milieu, il faut le ilm, la connaissance, les indications, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr les ayats du Coran en priorité, qui nous rappellent la réalité de la mort, la réalité du qabr, de la tombe, de la résurrection, de l'au-delà, la pensée de l'au-delà, c'est ce qui nous permet de pleurer plus et de moins rire. C'est le sens du hadith qu'on a essayé, bi'idhnillahi wa fadli, d'expliquer après la salat du Maghrib. Et là, le hadith de At-Tirmidhi va dans le même sens. La mort, c'est une situation qui est, subhanallah, à laquelle on peut échapper. On pourrait presque dire que c'est une fatalité, parce que kullu nafsin dha'iqatul maut. Il n'y a pas une personne de ce dunya qui est restée et qui est toujours là, là wallah. Pharaon, l'homme le plus puissant au monde, Qarun, une des personnes les plus riches de ce dunya, Ils sont tous morts, retournés auprès d'Allah. Certains sont morts dans un châtiment terrible. Certains ont été ensevelis, d'autres noyés. Et d'autres personnes, avec leurs biens, leurs richesses, leur honneur et leurs injustices, sont tout simplement partis sans que personne ne voie un quelconque châtiment. Il est parti tranquillement. Il est parti en paix. Ça, c'est nous qui disons ça. Il est parti en paix. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe par derrière. Et le prophète nous rappelle que la mort, c'est une situation donc à laquelle personne ne peut échapper. Donc, badiru bil a'mal saliha. Empressez-vous à accomplir de bonnes actions. Si on analyse le mois qui vient de passer, il y a eu au moins deux personnes qui sont décédées qui avaient moins de 40 ans. Il y avait une jeune dame d'une quarantaine d'années et quelques, Allah yarhamha, et il y avait une autre personne également. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'âge, il n'y a plus d'âge pour moi, subhanallah. Il y a parfois des alamat, parfois il n'y a pas de alamat. Il y a parfois des signes, et parfois il n'y a pas de signes. Le mu'min doit toujours être prêt. Et le prophète alayhi salatu wasalam a cité parmi les événements de la vie de l'être humain, al-maut, cette mort qui se rapproche. Et en commentaire, Mohamedine disent, n'oubliez pas, idha mat al-insan, ça c'est un hadith qu'on avait rappelé il y a trois semaines, lorsque l'être humain meurt, son livret d'action est fermé. Le compte est bloqué. Le compte est bloqué, sauf trois actions qui peuvent encore être profitables. Sadaqatun jariya, le money que tu as donné. Par exemple, une mosquée construite, un hôpital, ça on avait expliqué, ou une connaissance que tu as léguée, tu as transmise et qui sera transmise et mise en pratique, ou un enfant pieux qui va faire doua, qui va faire des invocations pour toi. Et on avait rappelé qu'il est important, si on veut investir dans l'au-delà, on investit dans le tarbiya de nos enfants, dans l'éducation de nos enfants. Si on veut investir dans le akhira, cela commence bien sûr par notre salat, notre relation avec Allah, azzawajal, sans le moindre doute, mais cela transite obligatoirement par le tarbiya de nos enfants. Parce que cette éducation-là, elle est à double tranchant. Soit tu l'as réussi et cela te sera profitable après ta mort. Tu laisses un enfant pieux, il fera doua pour toi et tu profiteras de ses bonnes œuvres. Parce que c'est toi qui l'auras formé et éduqué. Waladun salih, un enfant pieux, yad'oula, qui fera doua pour toi. Et comme on l'avait expliqué, vous vous rappelez, il y a trois semaines, celui qui aura obtenu un doctorat, un bac plus 12, bac plus 14, et qui sera admiré de tout le monde, il n'a pas été dit que cet enfant-là priera pour son père. Il sera peut-être célèbre, peut-être riche, peut-être épanoui, heureux, mais est-ce qu'il aura une pensée pour son papa, sa maman qui sont décédés? Est-ce qu'il enverra de bonnes actions? Est-ce qu'il fera des doigts pour eux? Le plus important, c'est que nos enfants soient pieux. Qu'ils aient une bonne formation, une bonne science de ce dunya. Avec ça, nourouna ala, nour. Mais l'éducation, c'est le plus important. Autrement, le jour de Qiyama, cet enfant se retournera contre ses parents, عند الحساب, au moment des comptes. Il y avait un kalam d'un pieux prédécesseur, ça fait très longtemps qu'on a lu ça. Du coup, le nom de l'auteur ne me revient pas. Il avait dit que les comptes des parents à propos de l'éducation de leurs enfants passeront avant les comptes des enfants concernant le respect de leurs parents. Vous suivez? En arabe, c'est beaucoup plus beau. Hein? En arabe, c'est plus joli. Les comptes que les parents auront à rendre concernant tarbiya ou absence de tarbiya. Est-ce qu'ils se sont acquittés de leur devoir d'éducation ou non? Ça passe avant les comptes que les enfants auront à rendre concernant le birrul walidain, concernant le respect des parents. Ce savant attire notre attention sur le fait que, très souvent, on parle du respect des parents. Certes, il est tout à fait correct de parler du birrul walidain, mais n'oublions pas qu'à la base, si on veut avoir des enfants qui sont respectueux, il faut leur donner du temps et la tarbiya, l'éducation correcte est nécessaire. Maintenant, si à chaque fois les enfants ils veulent engager un dialogue avec nous, on n'a pas le temps, parce qu'on est en train de regarder One Dot Stress ou, je sais pas, mes références sont très vues, hein, c'est ce que j'entends. On va regarder des séries télévisées, on est en train de regarder un match, on a besoin de regarder les séries télé, c'est la pire des choses, tout genre de bêtises, donc on ne parle pas aux enfants. Et si on veut la paix, une maman qui témoignait dit quand elle veut la paix, elle donne à son fils ou sa fille la télé ou les jeux vidéo. Et il peut passer 3 ou 4 heures et il ne m'embête pas. Il y a de quoi être fier. Tu occupes le cerveau de ton enfant avec des bêtises, avec des jeux de rôle ou autre chose qui se répètent, qui va le rendre, comme dit en créole, qui va le rendre comment? Gaga. Sans rapport avec les dits, hein? Qui le rend gaga, complètement bête, écervelé. Au lieu de créer des connexions entre les neurones, au lieu de développer son intelligence, il va développer juste l'attrait au jeu, les réflexes, ainsi de suite. rien de profitable. Et au lieu de passer du temps avec cet enfant, comme Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nous avait enseigné, il dit que les 7 premières années, donne de l'amour à ton fils et à ta fille. Qui dit donner de l'amour, ça veut dire passer du temps. On ne passe pas du temps, on ne donne pas de l'amour si le papa est devant son match, la maman est devant la télévision et les enfants sont devant Internet. On appelle ça la famille d'écran. Papa football, maman série brésilienne et les enfants iPad, iPhone ou je ne sais pas quoi. Inch'Allah Moustan, quelle famille? C'est quoi cette famille? Tout le monde, c'est-à-dire que c'est comme si que leur famille c'était l'écran. Le plus important, il se réveille, il pense à ça. Avant de dormir, je dis, Wallah Moustan. Il n'y a que donner du temps aux enfants, Wallahi, c'est notre priorité. Et donner ce temps aux enfants, ça permettra de forger un lien, Mohabba. Et qui dit Mohabba dit lien, dit respect après. Comment tu veux que ton enfant te respecte si tu ne lui as jamais donné du temps? Comment tu veux que ton enfant te fasse confiance un jour, il est capable de te parler de gros problèmes si tu ne lui as jamais donné du temps d'écoute? L'éducation, c'est pas il n'y a pas de baguette magique ça pour l'éducation. C'est pas dire allez voir Fundi, allez voir Molissa, il va arranger ça. Non, jamais de la vie. C'est la graine que tu as plantée, comment tu l'as plantée, quels soins tu as donné. Comme on dit tout le temps, un professeur passe 45 minutes par jour avec un élève. 45 minutes sur 24 heures. Et dans les 45 minutes, il y a 30 élèves. Donc ton fils, ta fille, c'est 4 minutes ou 5 minutes. On refait le monde avec 5 minutes? Là, wallah, on l'apprend juste à bien lire, on donne un discours, on explique. Mais la base de l'éducation, ça reste les parents. Donc, c'est un peu paradoxal, on parle de l'amour, mais on parle des enfants. Mais le but, c'est de faire la relation, le fait que quand on meurt, c'est une fatalité. Certes, il n'y a plus rien qui peut nous aider, mais si, certaines choses, et parmi ces choses-là, avoir un enfant pour lequel on aura donné une bonne éducation. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous parle également du qiyama. Non, avant de parler du Qiyamah, pardon, il nous parle de l'antéchrist Ad-Dajjal. Ça, c'est un point qu'on n'a pas besoin de développer énormément. On a juste à demander protection. Wa fata alayhi salat wa salam. Nous enseignons du'a Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih Ad-Dajjal. Et les sahaba apprenaient ça et lisaient de le qa'ida. Dans la position assise avant salam alaykum wa rahmatullah, on peut dire Allahumma inni zalamtu nafsi, mais ce doua aussi fait partie des douas masnoun, des douas enseignés par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que de son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne aux sahaba, demande des protections contre Ad-Dajjal. Et pourquoi Ad-Dajjal? Parce que c'est le pire des fitnas sur cette terre. Allah n'a pas créé une plus grande source de fitnas, quelque chose de plus compliqué, de plus difficile à supporter spirituellement que la vision de l'antéchrist, parce qu'il va concrétiser toutes les passions humaines qui ont pu exister à travers l'histoire de l'insan, l'histoire de l'être humain. Ad-Dajjal, il te les fait voir, il te les fait goûter en live immédiatement, et c'est là une épreuve de la part d'Allah. C'est là une épreuve de la part d'Allah. On voit comment est-ce qu'Allah organise les choses. Dajjal vient après 3 années de famine et de disette. Est-ce qu'on connaît c'est quoi la famine? Non. Qu'Allah nous protège. Peut-être, on peut demander à nos parents, à nos grands-parents, est-ce qu'ils ont connu la famine? Bien sûr que oui. Mes parents, ils parlent de cette époque, de leurs parents, qu'ils racontent. Quand ils sont arrivés à La Réunion en période de guerre, il n'y avait rien à manger, ils mangeaient que des racines et ainsi de suite. La viande, le poulet, tout ça, il ne fallait même pas y penser. Période de guerre et ainsi de suite. Je pense qu'à Madagascar, ils connaissent, wallah musta'an, jusqu'à maintenant, dans les différentes îles de l'océan Indien. La famine, c'est quelque chose de terrible. Et quand tu as faim, tu es prêt à tout. On est même prêt à voler, oui ou non? Et du coup, voler, ça devient moubah, licite, si c'est pour te nourrir, pour ne pas mourir de faim. Et pire encore, un père, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour ses enfants qui meurent de faim? Ça, il n'y a plus de limite là. Il n'y a plus de limite humaine. Quand il s'agit de nourrir tes enfants qui sont en train de mourir de faim, tu es prêt à tout. C'est-à-dire que l'être humain, lorsqu'il est face à la faim, à la soif, lorsqu'il est dans une situation où il peut mourir, il y a l'instinct de survie. Et dans cet instinct de survie qui recule les frontières de l'humanisme, l'antéchrist arrive. Il claque des doigts. 3 années de disette, c'est synonyme de 3 années de sécheresse. 3 années de disette, de famine, c'est synonyme de 3 années de sécheresse. Quand il claque des doigts, la pluie se met à tomber. Et les fruits, les légumes sortent en un claquement de doigts. Si tu m'écoutes, tu m'obéis, tu m'acceptes comme ton Seigneur, tout ça c'est pour toi. Fitna. Le prophète m'a dit que c'est le plus grand fitna parce que l'homme est dans une situation de faiblesse par rapport à la faim, la soif, la famine, mais également spirituellement, pour les croyants, situation extrêmement difficile. À l'époque de Dajjal, situation extrêmement compliquée. Et Dajjal ira voir, le Hadith Prophète explique que Dajjal ira voir des fermiers, des gens qui ont des animaux qui sont morts. Et pour un propriétaire d'animal qui a du bétail, cabri, mouton, autre, il n'y a rien de pire que ces animaux sont morts. C'est fini, il n'y a plus de fortune. Quand tes animaux sont à terre, les quatre pattes en l'air, quatre fers en l'air, comme on dit, c'est comme si tu as des billets de banque qui ont été brûlés. C'est pareil, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de viande parce que maïdite, on ne mange pas ce qui est mort. Il n'y a plus rien à tirer. Et Dajjal fera ce genre de miracle qu'il demandera, il permettra à ces animaux de retrouver la vie. Il ressuscitera les animaux pour les personnes qui veulent bien le suivre. Alors que ceux qui ne veulent pas l'accepter comme ilah, ils connaîtront encore plus de difficultés qu'avant le passage de Dajjal. Voyez le degré d'épreuve. Troisième degré d'épreuve, Dajjal ira voir une personne qui aura perdu ses parents. Hadith tout ça. Et il fera ressortir le papa, la maman de la terre. Ils vont se lever, ils vont dire, « Oh mon fils, cet homme-là c'est ton Seigneur, accepte-le comme ton Seigneur. » Fitna, c'est-à-dire que ça c'est la limite supportable de fitna pour l'être humain. C'est pour ça que le prophète alayhi salat wa salam nous a dit que si vous entendez parler de l'antéchrist, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a de ça, mais surtout le message c'est il faut fuir, n'allez surtout pas le voir. Pourquoi d'après vous? Parce qu'un homme, un croyant pense qu'il est mu'min. Mais quand il voit les fitnas de Dajjal, et tout ce qu'il va faire comme miracle, entre guillemets, c'est « biqudratillahi wa fadri ». C'est Allah qui lui accorde ce pouvoir. « Ibtila'an wa fitnatan linnas » pour éprouver les gens. Il n'y a pas plus grande épreuve que celui qui voit l'antéchrist et qui doit supporter la vision de ce qu'il apporte de khair, de ce qu'on pense être bien, parce que la situation elle est catastrophique. Et pourquoi fuir? Parce que l'homme pense qu'il a la foi, mais arrivé devant l'antéchrist, il va se rendre compte qu'en finalité, sa foi n'était que poussière. Et que le iman est tellement faible. Et lorsqu'on est une situation où, c'est comme si qu'on peut brancher notre foi et voir quel voltage de foi. Nous, on pense qu'on est les meilleurs, mais quand tu branches avec l'appareil, tu te rends compte que ton iman, il est 1% ou 2%. Rien à voir avec les 100% des sahaba. Et l'homme risque de chuter face au miracle de Dajjal. Donc, on dit que accomplissez les bonnes actions également avant la venue donc de cet événement final qui va précéder le Qiyamah. Vous voyez le tertib des choses. Le hadith parle de la mort, parle de Dajjal, parce que peu de gens parmi les croyants verront Dajjal et nous demander protection contre la vision de Dajjal. Que nous ne soyons pas vivants, ni nous, ni nos enfants, nos petits-enfants, lorsque cette fitna apparaîtra. Et dernier point, cité par le prophète, alayhi salatu wassalam, le qiyama, parce que le qiyama, c'est la fin de tout espoir. Lorsque le qiyama, lorsqu'on pénètre dans ce monde du akhira, de l'au-delà, là, c'est le monde de hisab, c'est le moment où on a juste à rendre compte et à répondre de nos actes et de nos décisions dans ce dunya. Donc Allah Rabbul Izzah de sa clémence nous donne la possibilité de réunir les bonnes actions, de nous efforcer à accomplir le maximum de bonnes actions avant d'être éprouvé par n'importe laquelle de ces épreuves. Et petit parallèle sans s'étaler sur le sujet, les savants disent, les contemporains disent que autant nous pouvons craindre la vision des miracles de Dajjal, nous pouvons voir notre faiblesse lorsque nous sommes nous-mêmes exposés aux fitnas, entre guillemets, ordinaires de ce monde. On prend un exemple très clair, très simple. Je suis pratiquant, je viens à la mosquée, j'essaie de, mashallah, d'être le plus assidu possible. Et du jour au lendemain, je me fais approcher par une jolie fille, d'une grande beauté. Et elle me fait des avances. Qui sait, tient debout. Ça fait partie des épreuves de ce dunya. Et là, on parle pas uniquement pour les jeunes, parce que ça peut toucher n'importe quelle tranche d'âge, mais principalement un jeune qui est au lycée, qui s'est toujours préservé, arrivé à un âge un peu plus d'émancipation, lorsqu'il y a ce genre de fitna. Mais ça, c'est une réalité, ça. Nos enfants sont exposés, on doit leur expliquer qu'il y a des limites à ne pas franchir. C'est pas parce que tu vois tes amis prendre ce chemin, que toi, si tu t'éloignes de ce chemin, tu passeras pour quelqu'un d'anormal. Là, wallah, sois normal aux yeux des gens, mais sois valeureux aux yeux d'Allah. Si les gens te considèrent comme quelqu'un de, comme les jeunes disent, c'est pas gentil, comme ils disent que ils te considèrent comme un steak, ou ils te considèrent comme quelqu'un qui a raté, comme quelqu'un qui ne réussit pas, comme il a réalisé, laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est que ton khaliq ait une pensée positive de toi, il voit ton khawfullah, ton khashyatullah, la crainte d'Allah. Donc, parfois, dans ce genre de situation, autre situation, tu as besoin d'argent pour investir dans un commerce. On te propose de racheter un fonds de commerce, d'investir dans telle chose, ou tu as besoin d'un véhicule, et tu n'arrives pas à réunir les fonds. Et la seule solution, c'est emprunter avec la banque. Tout en sachant que la banque, il n'y a aucune banque qui te prête de l'argent sans riba, sans intérêt. Et le riba, c'est la pire des choses. Là aussi, ça fait partie des épreuves réalistes. On ne parle pas de choses extraordinaires. C'est-à-dire les épreuves qui sont à notre porte. Est-ce que tu résistes? Tu dis que non. Je ne vais pas mettre un argent, un euro de haram dans ma bouche, ni dans la bouche de ma femme, ni dans la bouche de mes enfants. Parce qu'Allah Rabbul Izzah m'a demandé, « Oh, anfusakum wa ahlikum nara » Tu te protèges, protège ta femme, protège tes enfants contre tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut nous rapprocher du jahannam, qu'Allah nous protège. Donc, si face à ces épreuves qui nous attendent chaque coin de rue, on chute et on n'arrive pas donc à résister, et dans un discours beaucoup plus moderne, cette fois-ci c'est vraiment un discours de 2016-2017, c'est lorsque tu es face à ton portable et que tu reçois des invitations, il y a des images qui sont mauvaises, il arrête les dalik, on parle de pornographie et ainsi de suite, et que tu n'arrives pas à quoi ? À fermer les fenêtres, à clore tout ça, à passer à autre chose, à zapper, à te protéger, ben imagine quand Dajjal sera là. Ou crois qu'on a un coq. Tu crois que tu es le meilleur. Face à ton écran, tu chutes. Face à un morceau de, je ne sais pas comment on appelle ça, du plastique, de verre et de ciel qui est imprimé, tu chutes et tu tombes à genoux. Et tu tombes par terre, quatre pattes. Mais quand Dajjal fera des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement, tu penses une seconde que cet homme qui face à un écran de 6 pouces ou 8 pouces n'a pas pu résister, résistera face à l'antéchrist, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Si on est prêt, nous, à fermer toutes les portes de haram qui se présentent à nous, qui s'ouvrent à nous, ça veut dire que là, c'est dalil ala wujud il iman, dalil ala wujud il taqwa. C'est une preuve que la taqwa, elle est installée dans le cœur. Qu'Allah Azza wa Jal, dans son immense clémence, nous accorde sa rahma et pitié de nous. Ikhwani fillah, demandons à Allah Azza wa Jal d'avoir pitié de nous. Ne demandons surtout pas, Ya Rabb, juge-nous sur ce que nous valons. Ah là 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 là. Si j'entends un imam dire ça, moi j'arrache ce bonnet, je tiens, hey, rouh barra. Dis pas ça. Jamais demande pas, Ya Allah, juge-nous et rétribue-nous sur nos actions. On est tous morts. Parce que nos actions ne valent rien. Nous ne valons rien. Nous avons besoin de la clémence d'Allah, de la pitié, pitié. Qu'Allah ait pitié de nous. Parce que si on amène Abu Bakr al-Siddiq dans cette masjid, est-ce qu'on a le nœud même de converser avec lui? Est-ce qu'on peut dire que j'ai fait l'Isha comme toi? C'est même pas comparable. On ne parle pas des mêmes mondes là, carrément, c'est incomparable. Donc ne pensons pas que nos actions, on les a faites, maintenant on est bien. Et du coup, ne regardons pas les gens de haut. Ne pas déconsidérer les gens. Ne pas dire que ce sont des pécheurs, ce sont des égarés. Toi-même, tu ne sais pas quel est ton degré de péché. Toi-même, tu ne sais pas, est-ce que tu es bien guidé ou il y a rempli de tentations de le cœur, tu me fais voir aux gens. Allah musta'an, Allah seul sait ce que nous valons vraiment. Donc, implorons Allah, implorons sa pitié. Que malgré nos faiblesses, nos manquements, Allah ait de la pitié pour nous. Et ça fait partie de la rahmat d'Allah, que d'aimer les croyants et d'avoir pitié d'eux et de les rétribuer malgré les manquements qu'il y a dans leur relation avec le Khaliq. Vous voulez démarrer l'autre chapitre sur le Mujahada, les efforts et la persévérance de la foi. On fera ça, Inch'Allah, lundi prochain. Nous sommes dans le mois de... C'est bien, mais il a raison. Nous sommes dans le mois de mars, barakallahu fik. Mais je voulais parler du mois islamique, nous sommes dans le mois de Rajab. Et Rajab fait partie des mois sacrés, Ashhur al-Hurum. Et les mois sacrés, ça veut dire un comportement sacré. Ça veut dire faire plus attention à nos bonnes œuvres. C'est-à-dire augmenter le quota, la qualité de nos bonnes œuvres. Mois sacré, ça veut dire également faire attention à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est haram. Et faire attention à ne pas continuer à aller dans les mêmes mauvaises habitudes que durant les autres mois de l'année. Ça veut dire mois de préparation également pour le mois béni de Ramadan, barakallah fik. Rajab, Sa première étape après Sha'ban, préparation spirituelle et progressive pour accueillir cet invité qu'Allah nous accorde cette longue vie fi ta'a Allahumma qui complète ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Le Ramadan, c'est une bouée de sauvetage, oui ou non? Wallahi l'azim. Je jure par le Seigneur des mondes que ce Ramadan qu'Allah nous a accordé, c'est une bouée de sauvetage pour chaque croyant. Parce que des fois, on est au top. Le mois de Ramadan, on est au top. Ayam al-Hajj, les 10 journées au top, on jeûne. Mais il y a des fois où on chute tellement bas et on se demande comment est-ce que je vais remonter la pente. Mais Allah t'envoie le mois de Ramadan pour te laver de tes péchés et te donner la force, la foi et l'envie de te rapprocher de lui. Et Allah est tellement clément qu'il est capable de nous accorder de son immense, de ses immenses faveurs et de son pardon illimité durant ce mois béni. Demandons à Allah Azza wa Jalla de nous permettre de vivre ce mois de Ramadan et préparons-nous. Une des actions qu'on peut faire durant ce mois de Rajab, c'est jeûner. On avait demandé à un sahaba, est-ce que le prophète, on avait prévu autre chose pour le mois de Rajab sur un autre programme, comment vivre Rajab et Sha'ban, mais ce qu'on retient, on avait demandé au sahaba, est-ce que le prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude de jeûner durant le mois de Rajab? Et il a affirmé que le prophète jeûnait beaucoup durant le mois de Rajab et encore plus durant le mois de Sha'ban. Donc déjà dans un premier temps, si on peut être régulier sur nos lundis et jeudis, mois de Rajab, et 13, 14 et 15 du mois de Rajab, ce sera déjà une très bonne chose qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.